Ben, du coup, on va enchaîner avec, là, on va être à la moitié du casting, avec la première double vainqueur de Koh-Lanta, qui est Clémence. Donc, Clémence qui avait gagné Koh-Lanta 5 Pacifique en 2005, qui avait regagné aussi le Combat des Héros en 2018, qui était revenue aussi pour le retour, le choc, ben, bref, on s'en fout. Et du coup, qui revient pour la quatrième fois, et qui a eu une interview quand même assez intéressante, je dirais peut-être la vidéo la plus intéressante de tout le casting, où elle dit que ce coup-ci, elle assumera ses stratégies. Parce qu'on sait qu'elle était stratège, mais qu'elle ne le montrait pas, que c'était quelqu'un qui réfléchissait énormément au jeu. Alors, est-ce que pour vous, ça va être alléchant ou
Oui,
pas?
bah, pour moi, ça l'était même avant les interviews, honnêtement, parce que c'est un profil très intéressant, même si un peu répétitif sur ces saisons, clairement. Mais bon, double vainqueuse, vainqueur, je sais pas comment on dit, double gagnante en tout cas, ce qui force quand même l'admiration, quoi qu'on pense de son jeu. Donc, si en plus elle vient avec des intentions un peu plus belliqueuses, ça peut être vraiment vraiment cool à regarder. Après, je pense que elle aussi, elle va être ciblée très très vite quand même. Je la vois mal gagner une troisième fois, ça serait incroyable. Et en tout cas, elle gagnera pas avec le même jeu qui lui a permis de gagner deux fois, ça c'est sûr. Donc à voir. Je pense qu'elle a tout intérêt de toute façon à évoluer un peu et à tenter plus de choses parce que elle ira pas au bout avec le profil qu'on lui connaît. Donc tant mieux si elle vient un peu avec d'autres envies. Mais voilà, qu'elle se fasse plaisir, qu'elle essaye de faire des trucs qu'elle a jamais tenté. Honnêtement, ça ne peut faire que du bien à la saison. Donc vas-y, vas-y, vas-y.
Vas-y, ma petite.
C'est ça.
Non, mais il y a toujours une mise en danger, entre guillemets, quand tu es un ancien vainqueur. On l'avait vu donc sur le premier All-Star où les anciens vainqueurs, pardon, étaient facilement ciblés parce qu'ils ont déjà gagné. Donc du coup, bah, voilà, on les cible. S'ils ne gagnent pas, tant pis, ils ont déjà eu leur part du gâteau. Elle, Clémence, c'est la seule qui a gagné deux fois. Donc, déjà, de facto, ça lui donne une bonne grosse cible. Elle se met en danger à venir une quatrième fois pour tenter d'être la grande gagnante, la plus grande gagnante, la Léo Messi de Koh-Lanta.
Bah elle l'est déjà, hein, techniquement.
Techniquement, elle l'est déjà. Mais là, voilà, du coup, on va dire qu'elle tente le challenge de quitter son confort barcelonais pour aller dans une nouvelle maison.
Oh, la métaphore.
La métaphore, voilà. Mais non, sans vouloir faire de comparaison au foot, voilà, elle quitte son confort de je gagne étant derrière les stratégies de mes alliés, etc., pour tenter, moi, de prendre en main le jeu à mon compte. Et ça, c'est plutôt intéressant, et de voir comment elle va tirer son épingle du jeu là-dessus. Donc voilà, c'est quelque chose que l'on est impatient de voir, qu'on espère qu'elle va mener à bien, et que ça apportera un petit peu de panache dans cette saison. Parce que voilà, c'est pareil, hein, c'est la plus. Alors pas au niveau de l'âge, je ne veux pas être Goujat comme l'a été Gino, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul Goujat, c'est Gino. C'est la plus ancienne des candidates en termes de saison. Donc, qu'elle renouvelle un petit peu sa façon de jouer, c'est intéressant à voir. Et je suis impatient de suivre à nouveau Clémence, si surtout elle promet de changer son jeu. Voilà, ça décuple mon envie de revoir Clémence.
Alors, c'est sûr que sur sa petite vidéo là que TF1 nous a mis en ligne, c'est vrai que c'est sûrement la seule vidéo qui m'a un petit peu hypé pour un candidat. Donc, c'est vrai que les promesses de jouer plus stratégique, de manière plus assumée, forcément, c'est quelque chose qui me parle. Et je pense que la stratégie, même si ça sera pas forcément montré au montage cette saison, vu que bon, on sait qu'il y a des risques que ça soit une saison très fan service. Mais je pense que la stratégie, ça va être un des rares moyens de se démarquer cette saison. Donc, je pense que c'est une bonne idée de partir là-dessus. Après, je rejoins les craintes qu'il y a, c'est que, oui, j'ai bien vu Hikaru nous dire sur le chat que sur c'est bien le combat des héros. Sur le combat des héros, c'était la seule gagnante à venir. Elle n'a pas été ciblée pour autant. Mais là, c'est quand même deux victoires, c'est quand même deux petites étoiles sur le maillot. Ça se remarque un peu, tu vois. Donc, c'est une double gagnante dans une saison, la légende, forcément, il y a une symbolique autour de ça qui fait que je ne les vois pas la garder jusqu'au bout, quoi. Donc, je pense qu'elle va avoir une grosse cible sur le dos. Je ne pense pas qu'elle va pouvoir aller très loin, mais vraiment, l'idée de l'avoir un petit peu changé de jeu sachant que elle a le bagage pour le faire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de candidats qui nous promettent de jouer plus stratège et qu'on voit que c'est un gros fail, comme par exemple Teyura dans l'île des héros. Hein, les deux colliers, on s'en souvient tous. Mais là, Clémence, on sait que elle s'y connaît bien en stratégie. Je veux dire, justement le combat des héros, on a bien remarqué que sur ses justifications de vote, elle était totalement consciente de la stratégie du jeu, qu'elle s'inscrivait totalement dedans. C'est juste que c'était pas la force directrice. Et donc, ça me fait penser qu'elle a vraiment les moyens de jouer stratégique. Après, est-ce qu'on la laissera faire? C'est interrogation, mais voilà, quand même, grosse hype là-dessus, même si, forcément, crainte sur la cible dans le dos, crainte sur est-ce que jouer stratégique, ça va pas être trop mal vu si jamais on le fait trop tôt, forcément. Mais grosse hype quand même.
Disons que au niveau de l'école de la stratégie, par rapport au combat des héros auquel elle a participé, elle a été formée à l'école Pascal, qui pour moi est un des plus gros stratèges de l'histoire et qui aurait mérité évidemment sa place en tant que joueur. On ne parlera pas de l'homme et ses crabes qu'il est. Enfin bref, mais voilà, elle a été formée à cette école-là, donc on espère qu'elle aura les enseignements et toute l'intelligence et la finesse pour mener à bien son entreprise.
Alors, on va passer tout de suite à une autre légende qui s'est un petit peu émoussée lors de son dernier passage, on s'en rappelle. Bon, on va pas forcer avec la chanson de Rachel, parce qu'on l'a assez entendue ces dernières années et tout, donc ça, c'est drôle, mais on va la laisser un petit peu de côté. C'est Teyura. Donc Teyura, une fois finaliste à Rajampat en 2011, puis éliminée systématiquement après la réunification lors de la nouvelle édition de la Revanche des Héros et de l'île des héros. Donc on se rappelle le truc du double collier, tout ça, ça c'est pas, on va pas faire la vanne parce que ça a été repris ad nauseam sur les réseaux et c'est un peu relou. Donc pareil, donc Teyura, j'ai l'impression qu'il est vraiment sur une pente descendante depuis l'île des héros et que là pareil, j'ai l'impression qu'on le voit pas forcément aller très très loin. Je sais pas si vous partagez cette impression.
C'est un peu comme Claude, sauf que lui il est nul. Donc c'est un peu. Je trouve qu'il y a un truc presque un peu pathétique à le voir revenir, etc. Je pense qu'il ferait mieux de passer à autre chose, honnêtement, parce que c'est voilà, il est gentil, il est sympa, il sait faire des toits en palmier, tout ça c'est très bien, mais bon, on a fait le tour, quoi. On a vraiment fait le tour, donc. Je comprends pas l'intérêt qu'il a à revenir, si ce n'est financier, mais encore, je pense que c'est même pas ça. Il veut juste se faire plaisir, mais honnêtement, nous, on sature. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je sature. Et j'espère vraiment, vraiment que c'est la dernière année où on le voit. Non pas qu'il soit antipathique ou quoi, mais c'est bon, t'es au roi, c'est fini. Faut arrêter, faut le débrancher, et puis le mettre sur une émission de déco naturelle ou j'en sais rien, mais voilà, je comprends que les téléspectateurs, et je suis même pas sûr que les téléspectateurs aient encore envie de le voir, honnêtement, mais TF1 qui force à outrance avec lui, c'est stop, quoi. Donc, dernier chant du cygne, espérons, peut-être qu'il fera une bonne saison, on n'est pas à l'abri, hein, sur un malentendu, ça peut marcher, mais après, il faut vraiment passer à autre chose, quoi.
Ouais, pas mieux. Mais honnêtement, hein, pour être sur plusieurs groupes de fans de Koh-Lanta grand public, même le grand public, on a un peu ras-le-fion de voir le Francis Lalanne de Tahiti, quoi. Enfin, on a fait le tour de la question. Il a essayé de se renouveler en tant que stratège. On a vu que c'est clairement pas ça.
En joueur de ukulélé, c'est pas ça non plus.
Avec son père et sa chemise issue du mec du grenier.
C'est quand même son meilleur passage sur les dernières saisons, donc c'est terrible, quoi.
Ouais, bon, voilà, c'est... Non, ouais, flemme... On sait qu'il ne gagnera pas. On sait que Teyura, comme l'a dit Freeze, hein, il va passer la réunification parce que c'est Teyura. Mais qu'une fois pour la réunification faite, on sait qu'il va trouver un collier parce que dans chaque édition, il trouve un collier. Qu'il l'utilisera, ça va lui donner du sursis. Et la fois d'après, il sera niqué et il sera éliminé. Et voilà. Et merci Teyura d'être venu pour la 72e fois. Et au revoir et à jamais. Quoi. Donc voilà, c'est pas celui qui m'enchante le plus de voir parce qu'on l'a déjà assez vu et merci pour les travaux.
Ah, Teyura, ça m'embête d'en parler, vu que humainement, il a l'air extrêmement attachant, mais en tant que candidat, je suis d'accord sur le fait que bah, il semble plus avoir aucun intérêt en tant que candidat. C'est-à-dire que sur cette saison, grosso modo, niveau survie, bah, c'est une saison All-Star, le niveau en survie n'arrête pas d'augmenter, il servira à rien. Niveau sport, bon, on va pas dire que c'est nul, mais il y a quand même des gros molosses dans le casting, donc il va être surclassé. Niveau stratégie, bah, on a vu ce que ça a donné la dernière fois. Donc allez, on zappe. Oui, si jamais ça se joue au social, mais comment dire, lui, il a vraiment une cible sur le dos, donc il n'est pas si ouf que ça. Je veux dire, en effet, parce que quand on se rappelle bien de l'île des héros, si jamais Teyura était si bon que ça au social, c'est Claude qui aurait été visé, c'est pas lui. Et c'est ça le problème, c'est que voilà, Teyura n'a pas l'impression qu'il peut apporter grand-chose. On a l'impression qu'il ne peut pas apporter grand-chose à la saison sur le plan du jeu. Même le public général s'en lasse, c'est parce que voilà, c'est un peu triste.
Non, mais alors pour apporter une nuance à ce que tu dis par rapport à l'île des héros, par rapport au social, si il avait eu un meilleur social, Claude aurait été ciblé. Claude a l'immunité lorsque Teyura ne joue pas ses deux colliers. Et quand Teyura est éliminé la première fois par Ahmad, Claude venait d'arriver, donc il avait le talisman qui lui permettait.
Ah d'accord, oui, j'ai confondu Claude et Jessica, pardon.
L'espèce d'amulette, ouais.
Après, voilà, Teyura, non mais on vanne beaucoup parce qu'on a un petit peu, voilà, on l'a un petit peu eu à toutes les sauces, Teyura, mais. Le rôle qu'il a eu dans Les Armes Secrètes, où c'est le gain d'inconfort, où il apporte sa connaissance et tout, pourquoi pas ? Il est très bon en survie, il apporte sa connaissance, ça peut être un plus, ok. En tant que candidat, maintenant, c'est bon qu'on a fait le tour de la question.
Après, attention, parce que malheureusement, c'est le plus un de pas mal de candidats. Il est très pote avec quasiment tout le monde, parce que forcément, il est un peu ancien maintenant, et puis il est sympathique, quoi. Donc j'ai un peu peur, moi, que cette amitié d'avant-saison ne le fasse aller loin, et qu'on se le tape encore pendant je ne sais combien de temps, alors qu'il a effectivement, comme tu disais, plus grand-chose à faire valoir, quoi. Donc on verra, mais la flemme, vraiment.
Après, ceci dit, beaucoup se connaissent en dehors et tout, mais à un moment, tu vas être obligé d'éliminer...
Oui, à un moment, mais bon, il peut passer largement la merge, tu vois, comme d'habitude, parce que c'était Roua et qu'il avait une image comme ça, mais fondamentalement, il faudrait quand même se poser la question, est-ce qu'il mérite d'aller loin, parce que qu'est-ce qu'il apporte de plus que ses précédentes saisons, quoi.
On va enchaîner avec les quatre terres et une candidate dont la musculature et certaines performances l'avaient placée quand même assez haut, c'est Alix, donc Alix qui revient pour cette saison. Et du coup, il y a beaucoup de gens comme ça qui se posent la question, est-ce que Alix peut être vraiment considérée comme une légende? Est-ce qu'elle a vraiment sa place dans ce casting?
Non. Personne ne se pose cette question. Hein. Je pense honnêtement que tout le monde peut s'accorder à dire que c'est celle qui mérite le moins sa place. Alors, elle la mérite plus ou moins parce que, bon, personnalité un peu marquante de la dernière saison. Mais très clairement, c'est le vilain petit canard pour moi, chez les femmes en tout cas, mais même de manière générale, je trouve. C'est voilà, à peu près le même profil que Candice, c'est-à-dire quelqu'un qui est fort sur les épreuves. Et c'est tout.
Donc, et qui a très très peu confiance en elle.
Ouais, honnêtement, qui avait envie de revoir Alix? Je pense pas grand monde, y compris chez les téléspectateurs, donc c'est un peu surprenant. Voilà, elle doit être bien vue par la production, visiblement, et peut-être qu'elle a d'autres choses qu'on n'a pas encore eu le temps d'apercevoir, mais j'y crois pas du tout. Et je suis très déçu de l'avoir au casting, alors qu'il y avait quand même, je pense, mieux à faire. Même Béatrice, par exemple, qui est dans les suppléantes, je trouve, aurait été beaucoup plus intéressante que Alix. Donc c'est un peu curieux, ce choix-là, mais bon, ça va un peu dans le sens des dernières saisons, donc admettons, mais je trouve ça un peu...
S'il fallait choisir deux candidates des quatre terres, comme c'est le cas là avec Alix et Alexandra, si tu mets Alix, autant mettre Adja directement, plutôt qu'Alexandra. Et là, pour le coup, ça aurait pu avoir une sorte de revanche entre les deux, mais voilà, comme tu dis, j'aime beaucoup Alix, hein, mais... Dans cette saison, peut-être un petit peu tôt, pour moi, c'est pas celle qui a marqué le plus ces dernières saisons en candidate féminine. Voilà, après, elle peut nous surprendre. Hein. Pareil, hein, on est à l'abri de rien. Mais je ne mets pas une grosse pièce dessus. Voilà. À voir. Je.
Tu rames tellement.
Ah ouais, non. Là... Non, mais voilà, non, mais. Alix, c'est ça, c'était les muscles de la saison des 4 terres. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser de son retour. C'est ça le truc, c'est pour ça. Autant les autres, les avoir, c'était par rapport à l'évolution, par rapport à savoir s'il était plus joueuse, à savoir si. Etc. Mais là, honnêtement, j'ai pas d'avis. C'est terrible, hein. Quitte à choisir, voilà, je vois, bon, Gino, dans le chat, je vois que tu veux animer le débat en mettant Lola Quinn, mais même une Lola aurait été plus légitime, entre guillemets.
Non, putain, ça doit faire ouais, du mal.
Moi, je suis pas là.
Non, mais voilà, c'est ça, c'est que Alix, elle a été éliminée au binôme avec Laurent, bon, peut-être parce que Laurent était un peu plus ciblé avec son côté boomer, etc. J'espère qu'elle va nous faire mentir, hein, et je lui souhaite très très clairement, hein, mais voilà, c'est pas celle que j'espérais revoir tout de suite, ou au moins pour une édition des 20 ans.
Alors pour Alix, il y a quelque chose qui m'a pas mal frappé, c'est que juste avant de partir faire cet enregistrement, j'ai regardé les petites vidéos que TF1 avait mis avec chaque candidat, et dans chaque description, il nous mettait les hauts faits d'armes de la personne, c'est-à-dire, par exemple, pour Clémence, il nous avait mentionné double gagnante. Pour Claude, il nous avait parlé de ses 17 victoires. Et pour Alix, ils nous ont mis capitaine de l'équipe jaune.
Ah ouais.
Je pense
wow, quel palmarès.
Je pense que ça en dit long sur...
C'est comme les héros où c'était genre première femme à avoir pêché au harpon, première femme à avoir fait le feu,
par
comme
friction.
Le disait Timmer Freeze.
Par friction,
très important. Ouais.
Très important.
Mais même, voilà, j'aurais préféré la revoir que Alix, en vrai. C'est terrible. Hein,
mais voilà, c'est que en termes de légitimité, voilà, c'est une saison qui s'appelle La Légende. Voilà, c'est un petit peu comme si pour rigoler sur sa liste de la Coupe du Monde, Didier Deschamps prenait un joueur de National 2.
C'est le Chimbanda de la
saison. C'est ça. Après, je vais quand même nuancer, c'est que en soi. Revoir Alix, ça me dérange pas du tout. C'est la revoir dans une saison, La Légende, la saison des 20 ans. C'est quand même quelque chose qui appelle quelque chose de plus fort. Après, en soi, la revoir, pourquoi pas? Je veux dire, oui, c'est plutôt une bonne sportive. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui peut mettre de la couleur dans une saison. C'est quelqu'un qui apparemment est pas totalement fermé à la stratégie. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut faire des choses pas trop mal. Mais le problème, c'est que, voilà, la saison, c'est La Légende, quoi. On sort pas l'équipe réserve, quoi.
Fermé à la stratégie, j'apporterai une petite nuance quand même. Hein. Alors, elle avait bien réagi sur le collier d'Aubin.
Bon, oui, il y a eu son petit pétage de plomb quand. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Il y a eu son petit pétage de plomb quand on a voulu éliminer son copain.
Ouais, pas fermé à la stratégie, voilà. Je suis moins convaincu.
Bon,
mais bon. Oui, mais bon. Donc, du coup, Alix, qui je parlais bien sur Insta avec le compte d'ADF, je la raid des futurs potentiels invités. Voilà, on peut passer. Non, ouais, elle est la bienvenue quand elle veut. Évidemment, c'est au
niveau du jeu. On lui avait donné un très beau trophée ADF de la meilleure sportive.
Alors, bah, non, puis voilà, surtout cela, c'est la critique. On n'est pas méchant envers les candidats. Donc, voilà, il n'y a pas de souci, évidemment. Puis bon, je crois qu'elle nous écoutait en plus et qu'elle serait ravie de venir. Donc,
salut.
Donc, pour une prochaine saison, elle sera la bienvenue, en tout cas. Alors, on va ensuite revenir en 2009, lors de Koh Lanta Palao. Et on va s'intéresser au finaliste de cette saison, qui est Patrick, le stratège Patrick, qui. Voilà, le Pat, aucune pitié, vrai, bon stratège, un peu filou, qui était personnellement un de mes personnages préférés parce que c'est quelqu'un qui assumait, je dirais même avec une certaine malice. Alors, on l'a pas revu depuis 2012, ça va faire presque 10 ans où il avait terminé à l'orientation lors de la revanche des héros. Il a 50 ans. Est-ce que il va pouvoir suivre un petit peu le train des autres? Ou alors, est-ce qu'on le voit aussi dans les premiers éliminés?
Il n'a pas 50 ans, il a 51 ans.
Il a 51 ans. Il est un peu plus sportif qu'à l'époque. J'ai eu la chance de le croiser au Pal Run, le Pal, je ne sais pas si vous connaissez, parc d'attraction dans l'Allier. Voilà, il avait fait son semi-marathon.
qui connaît ça?
Non, mais il est un peu plus sportif qu'à l'époque. Bon, il sera peut-être pas au niveau sportif des légendes de cette année. Mais voilà, il a toujours été très finaud, très malin dans sa stratégie. Moi, j'ai d'excellents souvenirs avec lui, il me faisait mourir de rire, même si j'ai eu envie de l'insulter à l'époque où il avait éliminé, enfin, où il avait été l'instigateur de l'élimination de Rodolphe à Palau, où il avait un petit peu, voilà, enfin, pas triché, mais voilà, il avait bloqué l'évolution de Rodolphe, qui était l'un des anciens, qui était très apprécié. Enfin, bref, je vais pas revenir là-dessus pour ceux qui n'ont pas vu la saison. J'ai un souvenir de lui avec son accent de la Loire qui me faisait mourir de rire, avec le pâte, ouais, le pâte et son accent. Enfin, voilà. Moi, j'ai d'excellents souvenirs. C'est un peu le fil de Freeze. Il y a Phil et Freeze, il y a Pat et moi. Où j'ai hâte de le revoir. J'espère qu'il sera plus. Parce qu'il était un petit peu dans ce pacte financier qu'il y avait avec Claude Kumba, lui, et puis je ne sais plus qui, en 2012. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas ça qui viendra gâcher son aventure. Mais voilà, il avait été excellent, il avait trouvé deux colliers d'immunité en 2012 qui lui avait permis d'être serein. Voilà, j'espère qu'il aura cette même finesse d'esprit où il sera un petit peu le stratège de l'édition. Bon, à voir et également, mais le à voir de est-ce qu'il va confirmer sa légende de stratège qui arrive à avancer sans ses muscles et sans. Et sans sa force sur la survie. Lui, c'était la stratégie qu'il avait menée à bien les deux fois. Donc, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir confirmer.
Ouais, moi, j'y crois pas trop sur cette saison-là. Par contre, je te rejoins sur le plaisir qu'on a à le retrouver. Moi, c'est typiquement ce genre de mecs qui m'ont fait aimer Koh-Lanta, parce que c'est des joueurs, des gens qui viennent là pour tenter des trucs, pour s'amuser, pour se faire plaisir. Et ça manque de plus en plus quand même dans les différents castings des saisons récentes. Donc, hyper content de le revoir. C'était pas forcément gagné non plus, mais il a sa place, il la mérite et c'est très, très chouette. Après, je sais pas trop, c'est quand même difficile de se prononcer après 10 ans sans jeu. Là aussi, hein, le côté old school peut faire un peu défaut, à voir si lui arrivera à s'adapter ou quoi. J'espère, parce que vraiment, c'est ce genre de personne qu'on a envie d'aller voir assez loin, mais bon, j'ai quelques doutes quand même sur sa capacité d'intégration, même s'il connaît déjà quelques joueurs, etc., et que le connaissance a déjà dû discuter sérieusement avant la saison. Mais bon, je lui accorde peu de crédit, mais c'est un de ceux que j'ai le plus envie de voir jouer assez loin, très clairement.
Ouais, vas-y, je ne savais plus si tu Ginos, je savais plus si tu avais si intervenu ou pas, mais vas-y, je te laisse intervenir, mon petit Ginos.
Ok, pas de souci Arnaud. Alors Patrick, je pense que là pour une fois va pas y avoir grand chose à dire parce que je ne peux que rejoindre toutes les remarques de Arnaud et de Freeze. Après, je pense en effet que c'est une même si j'ai beaucoup de plaisir de le revoir et que je pense qu'il mérite totalement sa place parce qu'il a quand même un profil de grands stratèges qui a eu de très bons résultats, qui est quand même assez rare dans Koh-Lanta malheureusement, même si j'ai quand même l'impression qu'avec le petit changement culturel ça va arriver de plus en plus, et que il avait quand même cette prestance un petit peu de bon méchant quoi, et ça va manquer un petit peu cette saison hein. Mais je pense que c'est une saison qui n'est pas faite pour lui, mais là pas pour pas dans le sens où il n'est pas légitime à être dans cette saison-là, ou dans le sens où il va être piégé. C'est dans le sens où il a pris un peu d'âge, même si Arnaud nous dit qu'il s'est mis en forme, on espère, mais il y a quand même un gros fossé niveau sportif, je pense. Il y a peut-être aussi un fossé générationnel, il a quand même plus de 50 ans. Alors même si je ne doute pas que c'est quelqu'un de sympathique, passé un certain âge, on n'a plus le même caractère. Je pense aussi que c'est quand même quelqu'un qui a été montré comme très dur en affaires, en quelque sorte. Je veux dire, c'est un stratège qui a été montré comme particulièrement féroce. Et disons que si jamais la saison, on se met dans l'état d'esprit que c'est Merry Thailand 2021, ça risque d'être très 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 compliqué pour lui, vu que ça serait vite quelqu'un à battre. Et de manière générale, je pense que il a vraiment beaucoup trop de choses qui vont contre lui pour que ça aille très loin. Après, je vois Trognon sur le chat parler du fait qu'il ait quand même des liens d'amitié avec Claude et Laurent. Et en effet, si jamais il se retrouve dans leur équipe, il peut peut-être avoir une petite chance de se faufiler jusqu'à la réunification. Et une fois la réunification, quand c'est du chacun pour soi, dans une saison où la stratégie va peut-être être plus importante qu'on va bien vouloir nous le montrer, c'est vrai qu'il peut peut-être faire un petit peu son trou, mais j'y crois pas vraiment. C'est-à-dire qu'il a trop de handicap, à mon avis.
Ah, faut pas oublier qu'il est issu de la revanche des héros où il y avait Kumba, Claude, Teura, Freddy, où Claude est ami avec Laurent en dehors, etc. Donc, est-ce que tout ça, ça peut jouer? Et est-ce que tout ça peut rentrer en compte au moment des éliminations et tout? Voilà, à voir si, si les relations extérieures peuvent avoir un impact sur le jeu. J'espère que non, mais ça me fait un peu peur.
Alors, enchaînons avec, encore une fois, les quatre terres, puisqu'on va parler d'Alexandra, donc la vainqueur des quatre terres, qui était peut-être justement un personnage, on était à peu près content de sa victoire, parce que voilà, c'était un personnage qui avait un parcours assez assez sympa, qui méritait quand même pas mal sa victoire. Alors, est-ce qu'elle a vraiment sa place aussi dans une saison des légendes, et est-ce qu'elle aura sa place dans un casting pareil?
C'est un peu tôt, je trouve. C'est pas immérité comme certaines, qu'on ne nommera pas, on en a déjà parlé. Elle a sa place dans un All-Star. Déjà, elle a gagné, donc par défaut, elle a sa place. Après, je pense que c'est peut-être un petit peu tôt. Ça, peut-être qu'il n'y avait pas une énorme concurrence dans le casting, malheureusement, côté féminin, et que du coup, elle a récupéré une place. Donc, c'est pas honteux de l'avoir là, très clairement, parce qu'elle a fait une bonne saison. Mais j'ai peur que ça soit compliqué pour elle en tant que gagnante, mais aussi en termes de niveau de jeu, parce qu'elle était quand même dans une saison pas très relevée, même si la victoire n'est jamais facile, ça c'est évident, mais c'est pas une saison dont on se souvient pour les dingueries stratégiques ou quoi. Et là, pour le coup, cette saison-là, je pense qu'il y a quand même du lourd, et je la vois difficilement au niveau. Donc j'espère me tromper. Honnêtement, elle est sympathique, et on a tous plutôt apprécié sa victoire, donc je lui souhaite que du bien, mais... j'y crois pas beaucoup, j'y crois même pas du tout, mais c'est pas illogique qu'elle soit là, donc je vais faire une Arnaud, je vais dire à voir. Voilà.
Oh, quel hommage, je me sens honoré de cet hommage. alors, pour moi, ça reste l'une des candidats les plus, comment dire, pas intelligentes, mais sur les épreuves de réflexion, c'est celle qui voilà, elle cartonnait tout. Donc, ce serait intéressant de voir comment on va tirer son épingle du jeu là-dessus. Même si j'ai un peu peur que cette année, vu le casting qu'on a, on ait les cochons pendus et toutes les épreuves statiques, longues et chiantes, mais où la force civique prime sur le reste. Enfin bref. Mais aussi, j'ai hâte de voir comment elle va tirer son épingle du jeu par rapport à des choix stratégiques. Parce que, comme Fris l'a dit, elle n'est pas issue d'une saison où la stratégie avait une place prédominante. On a souvent dit que les 4 terres, c'était la saison des bisounours. Donc, c'est la reine de la saison des bisounours. Maintenant, dans un casting où les gens auront les dents un peu plus longues, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Moi, j'aimais beaucoup Alexandra, parce que j'avais beaucoup aimé son histoire racontée au fil de l'aventure, cette géniale loseuse qui était partie, où on s'attendait à ce qu'elle abandonne, et au final, elle a cartonné tout le monde. Mais bon, voilà. Ouais, dans un casting, même face à un casting féminin qui est quand même assez relevé au niveau sport, face à des Karima, des Clémence, des Clémentine, etc. J'ai un peu peur que elle ait le même rôle qu'une Cindy, où ça peut vite partir sur la corde raide.
Alors Alexandra, je comprends pas trop qu'on remette sa place en doute, en fait, parce que c'est une saison la légende, je veux dire, c'est une gagnante qui a une histoire emblématique, qui avait quand même eu une certaine popularité au moment où elle l'a emporté. C'est pas automatique la popularité quand on l'emporte. Hein. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de monde qui a détesté voir Maxine gagner. Il y a beaucoup de monde qui a été déçu par Nawel. La victoire d'Alexandra était quand même plutôt bien passée, je veux dire. Et de manière générale, c'est un voilà, c'était une vraie storyline ultra intéressante. Donc du coup, dans une saison La Légende, honnêtement, je pense qu'il y a bien pire. Je pense qu'il y a clairement un cas très fort pour dire qu'elle est dans le top 10 féminin. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, disons que sur ce qu'elle peut apporter à cette saison-là, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que on va avoir déjà une saison. Bon, on écarte déjà la survie. Niveau sport, on en a parlé, c'est que on a un cast un petit peu bourrin, donc ça dépend des épreuves qu'ils vont donner. C'est-à-dire, si jamais ils mettent pas mal d'épreuves avec un peu de réflexion, peut-être que les gens se rendront compte à quel point elle peut être précieuse. Donc là, ça peut aller. Mais si jamais on part sur des épreuves de bourrin également, je pense qu'elle risque de servir de viande fraîche avant l'unification, malheureusement. Donc là-dessus, c'est toujours une crainte. Après, voilà, les deux piliers qui me semblent les plus importants cette saison, c'est un petit peu le social et la stratégie. Sur le social, j'ai aucun doute sur ses capacités, mais vraiment aucun, elle a l'air extrêmement attachante. Par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est la stratégie. C'est-à-dire qu'en effet, on ne sait absolument pas ce qu'elle vaut, elle n'a jamais eu à se forcer. Elle était dans une... voilà, on l'a dit, c'est que les quatre terres, saison de bons élèves, personne qui élève la voix plus haute que l'autre une fois que Adja est partie, c'est vraiment une saison où elle n'a pas pu exercer ça. Et disons que avec des candidats qui seront peut-être un petit peu au couteau, surtout si jamais ils voient qu'ils ne peuvent pas faire la différence sportivement, là j'ai peur qu'elle soit un petit peu perdue. Donc du coup, je ne l'exclurai pas vu qu'elle a quand même un excellent social. Que si jamais les épreuves sont un peu mieux variées, elle a une niche, mais il y a toujours cette question de la stratégie, il y a toujours cette question de est-ce qu'elle n'est pas un petit peu trop dans son univers par rapport à d'autres candidats. Il y a aussi cette question que c'est peut-être un peu tôt pour la revoir, en effet. Mais voilà, j'ai quand même hâte de la voir, vu que c'est une candidate que j'avais beaucoup appréciée lors de son premier passage. Je pense qu'elle a peut-être ses chances si jamais tout se déroule de la meilleure des manières pour elle, mais il ne faut pas attendre de miracle de son côté. Si jamais elle réussit, ça ne sera pas une énorme surprise, mais ça sera une surprise quand même.
Alors, il nous reste 6 candidats, et on va tout de suite passer à celui dont le torse est aussi lisse que son image. J'ai très honte. C'est un dauphin. Voilà, c'est un dauphin. C'est Laurent Mestret. Donc Laurent Mestret qui a terminé sur les poteaux en 2011 à Raja Ampat, qui a gagné la nouvelle édition, qui a gagné Danse avec les stars, qui est animateur et tout, qui est une personnalité très TF1, c'est-à-dire une personnalité très lisse avec une plastique irréprochable, et qui revient donc pour cette nouvelle édition. Et alors c'est un joueur qui paraît-il a un social redoutable, qui est très très apprécié. Peut-être au détriment du spectacle, parce que c'est vrai qu'il est pas voilà, il est pas très spectaculaire. Alors vous, est-ce que vous partagez plutôt ce sentiment-là, ou au contraire, est-ce que vous avez vu des choses un petit peu chez Laurent qui vous ont intéressé et que vous serez content de revoir pour Koh-Lanta La Légende?
Bah voilà, tout est dit, je crois.
Bah alors, il a perdu sa carte maîtresse. La plus chère.
Allez, candidat suivant.
Voilà. Voilà, voilà. Non, voilà. Moi, alors, depuis que j'ai vu Staranu, je le déteste, hein, parce qu'il m'a fait renaître tous mes complexes.
Même s'il n'a pas voulu montrer son pipou à la caméra, ce qui est dommage.
Ah, t'étais preneur, Damien ?
Oh là là.
T'étais preneur, Damien ?
Alors que moi, j'ai moi.
Pardon ?
Le mot pipou a été prononcé, quand même. Bon, bref, pour revenir sur Laurent, moi, c'est un candidat que je n'aime pas du tout, parce que je le trouve inintéressant au possible, que ses différents passages n'ont pas été mémorables, même s'il a gagné une édition. Que, bon, après, sa place est plutôt logique, quand même, d'un point de vue marketing, en tout cas, parce que c'est, comme tu disais, Damien, un visage TF1, et que je pense qu'il compte sur lui pour la suite. Donc, voilà, un peu comme Claude, même si Claude a d'autres qualités. Ça ne me choque pas de le voir, parce que je peux comprendre, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Malheureusement, je pense qu'il a quand même ses chances, non seulement d'aller loin, mais même de victoire, parce que, comme tu disais, il a un social très correct, si ce n'est plus, qu'il est très copain avec plein d'autres personnes, et qu'il sait bien manipuler un petit peu tout le monde, ce qui, ça, est plutôt à mettre à son actif. Mais bon, je suis un peu sceptique quand même, j'en attends pas grand-chose. Mais bon, préparez-vous à le voir à un bon moment, je pense.
Ah, bah honnêtement, je vois pas trop quoi dire d'autre par rapport à ce qu'a dit Freeze, c'est que sa place, comme Freeze l'a très bien dit, c'est quelqu'un qui est pas mal mis en avant par TF1, c'est celui qui a gagné la première saison après la coupure de 2013-2014. C'est quelqu'un qui est pas mal mis en avant par TF1, c'est quelqu'un qui a été celui qui a gagné la première saison après la coupure de 2000, KUT de 2012 à 2014, donc du coup comme il y a eu un petit changement d'identité après cette coupure, c'est logique qu'il soit là. C'est aussi quelqu'un c'est que on avait un petit peu parlé sur le chat, on n'a pas trop voulu en parler par obligeance envers les candidats concernés. Mais disons que voilà, il y a un terme qui revient parfois, c'est le terme de quota bikini. C'est-à-dire, sur une saison normale, c'est-à-dire, on se dit que, bon, cette nana-là, enfin, cette jeune femme-là, je devrais plutôt dire, on sait qu'elle est là parce que, les caméramens vont pouvoir offrir des plans assez. Bon, je suis très mal à l'aise de parler de ça, mais bon, je pense que vous voyez où je veux en venir. Et disons que voilà, Laurent, c'est la version masculine du quota bikini. C'est il a un physique avantageux. C'est normal que la production ait un certain intérêt supplémentaire lié à ça. Après, voilà. Et...
On se souvient de son plan sur ses jolies fesses, sur le boat avec Martin.
Mais voilà, donc après, mais par contre, en effet, j'ai pas un énorme intérêt à le revoir, c'est-à-dire que c'est toujours dur de dire ça, malheureusement, mais on sait que la saison qu'il a gagnée, c'est un petit peu sur un chantage affectif lié à la situation tragique que subissait sa famille. Donc on a quand même un goût assez amer de cette victoire-là, même si on comprend éminemment que les candidats aient agi de cette manière-là. Et puis que bon, le fait que la nouvelle édition soit une des pires saisons qu'on ait vues, ça n'a pas aidé non plus. Mais voilà, c'est que voilà, on n'a pas un souvenir impérissable de ce candidat-là, en grande partie à cause de ça. Après, les attentes en termes de résultats, par contre, il a un excellent social, il va pas être décroché sportivement. Le petit doute qu'on peut avoir, c'est. Est-ce qu'il se placera si bien que ça stratégiquement? Parce que, justement, sur la saison de la nouvelle édition, celle qu'il a remportée, dans un monde où il n'aurait pas, où sa famille n'aurait pas subi ces choses-là, il giclait à la cinquième position. Et puis, il s'était pas bien placé. Donc, de ce fait, je ne suis pas sûr que Laurent soit si bon stratégiquement. Mais après, il y a ses relations. Il y a son social qui est excellent, il y a le fait qu'il ne lui manque rien d'autre, donc en effet c'est un des grands favoris de la saison, et malheureusement c'est pas le style qui nous semble le plus aguichant. Après, si jamais Laurent peut nous faire nous tromper, on sera ravis d'admettre qu'on a tort à son compte, donc pourquoi pas, mais on part pas optimiste et on sait que ça risque de durer.
Du coup, dès qu'on enchaîne avec une candidate, il paraît qu'on n'aura pas grand chose à dire, je pense, puisque c'est la vainqueur de la saison 8 qui était Koh-Lanta Karamoan, c'est Christelle. Alors Christelle qui ensuite, lors de son retour, lors du retour des héros, s'était fait draguer par Moundir qu'elle avait éconduit gentiment. Et c'est tout, parce que moi j'en garde le souvenir d'une candidate qui était dans une alliance majoritaire, qui avait suivi un petit peu le lead, qui avait profité de la chute de Bertrand et qui avait gagné comme ça. Et c'était pas une candidate super mémorable. Vous pareil, vous en gardez quel souvenir?
Pas grand-chose non plus, à vrai dire. J'ai le souvenir d'une candidate plutôt sympathique, mais c'est à peu près tout. Voilà.
Non.
Donc, à voir ce que ça a donné.
À voir.
Mais pareil, comme les anciens candidats qui reviennent, je suis plutôt content, parce que je trouve qu'historiquement, c'est bien qu'elle soit là. Après, ça ne peut, je pense, que être une bonne surprise, parce que je pense qu'honnêtement, personne n'en attend grand-chose. Donc à voir ce que ça va donner, mais moi je suis plutôt content d'avoir ce genre de candidate présent dans cette saison-là, donc je ne demande qu'à être enthousiaste.
Ouais, comme tu l'as dit, Damien, elle a bénéficié de la chute de Bertrand et de son social à moins 1000 lors de sa première édition. Deuxième édition, c'était le premier All-Star où, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les anciens vainqueurs étaient Vic Tricard et en plus, elle était avec Mundir, on se souvient de Mundir, de sa tranquillité, on va dire, hein, avec son esprit de Farc. Voilà. Donc bon, troisième fois qu'elle revient, après 12 ans d'absence, un petit peu comme Jade, pas dans les mêmes conditions, je pense. De ce que j'ai lu dans ses interviews, elle ne s'est pas préparée du tout, donc qui en fait clairement pas l'une des favorites au niveau des épreuves. Après, bon, bah, on verra, est-ce que son social va jouer pour elle ouais, je ne sais pas, c'est pareil, j'ai pas énormément d'avis sur Christelle parce que ouais, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas revue. On a un petit peu oublié ce qu'elle était. Donc voilà. Je vais te dire mes deux mots fétiches de ce podcast.
À voir.
Voilà.
Bah, Christelle, je vais être très honnête. Je me rappelais d'elle, je me souviens que de deux choses. C'est-à-dire, je me souviens qu'en effet, elle avait gagné la saison 8 en profitant de l'impopularité de Bertrand et de Frédéric. Et je me souviens que elle était policière. Voilà, c'est un petit peu tout ce dont je me souviens.
La Lara Croft.
Et qu'elle a fait beaucoup de trucs, genre le trophée Andros et tout, et puis le rallye des gazelles aussi. Après, elle a beaucoup fait de choses comme ça, vraiment plus dans le sport automobile, la moto et tout, notamment avec Jade et compagnie.
Ça peut être intéressant, je veux dire, entre le fait qu'elle fait... si elle est restée dans ce corps de métier-là, c'est quand même un corps de métier qui demande une certaine condition physique. Entre le fait que, apparemment, c'est quelqu'un qui est très porté sur le sport, ça peut un petit peu compenser son âge en termes d'épreuves. Ça peut être quelque chose de pas mal pour sa durabilité. Après, elle a pas l'air spécialement préparée pour la saison, donc ça me fait un petit peu peur quand même. Après, voilà, c'est vraiment la candidate pour laquelle le terme « avoir » est quand même le plus adapté, vu que je ne vois pas de défaut flagrant dans son jeu. Disons que son plus gros défaut, c'est que, bon, comme elle n'est pas là depuis longtemps, elle doit peut-être pas avoir autant de liens que ne l'a un Laurent, par exemple.
Elle a un petit manque de charisme, je trouve, quand même, par rapport au reste du casting. C'est peut-être ça qui peut lui faire défaut.
Mais après, voilà, je parlais principalement sur les compétences qu'on retient plus dans Koh-Lanta, c'est-à-dire, bon, la survie sur cette saison-là, ça va être un non-facteur. Sur le sport, apparemment, elle a l'air pas trop mal affûtée, enfin, on ne sait pas véritablement. Le social, bon, on a vu sur sa première saison qu'elle avait quand même plutôt bien géré la chose. Stratégie, elle n'a pas eu trop à s'employer, donc vraiment, c'est un petit peu une énigme sur tous les paramètres. Donc voilà, c'est vraiment la candidate pour laquelle le terme « avoir » est vraiment, vraiment le plus adapté. Mais malheureusement, dans une saison avec autant de gros profils, sachant qu'elle n'a pas vraiment de relation, ça peut être une surprise, mais on a quand même un petit peu de mal à y croire, vu qu'elle part quand même d'assez loin. C'est-à-dire, je crois plus volontiers à elle que à quelqu'un comme Jade, voilà, je pense qu'il y a encore un petit peu trop d'inconnus pour qu'on s'enthousiasme sur elle. Après, si ça se trouve, dans 3 épisodes, tout le serveur ADF sera en folie pour elle, mais voilà, il y a quand même beaucoup trop d'inconnus pour elle pour qu'on se prononce véritablement. Donc, écoute, Christelle, surprends-nous.
J'ai le titre du podcast, ça sera Koh-Lanta la légende, 2 points, à voir.
Bien vu. Et du coup, pour les avoir, on va passer donc à l'avant-dernier candidat masculin. Alors, le troisième candidat, je crois, de Koh-Lanta Malaisie, donc je vais vous laisser en parler, c'est Namadia. Donc, Namadia qui s'est fait, je dirais, c'est plus son collier joué sur, et qui élimine Javier, qui est passé un peu à la postérité vu son expression faciale. Mais de ce que j'ai cru entendre, c'était pas non plus un joueur exceptionnel, c'est pas un joueur si marquant que ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe ?
Ah non, c'est vrai, c'est complètement vrai. C'est pour moi le premier joueur même de l'histoire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on recrute uniquement parce que il a eu une séquence mémorable, mais c'est pas un joueur mémorable, c'est quelqu'un lui aussi de très sympathique, etc. Mais bon, qu'est-ce qu'il fout là, quoi ? On ne peut qu'être agréablement surpris, j'espère. J'y crois pas des masses, mais j'espère. Mais bon, sa présence pose un peu question quand même, parce que sur la base d'un conseil plutôt bien joué, hein, on lui retire pas le fait d'avoir sorti Ravière, c'était tout à fait jouissif, mais c'est vraiment son seul fait d'armes. Le reste de la saison, il a été plutôt mauvais, il a pas été très bon ni stratégiquement, même sportivement, il avait été assez décevant, si je me souviens bien. Sur le camp, il faisait pas grand-chose. Donc ça fait quand même, c'est quand même cher payé, je trouve, pour lui. Il doit être très content d'avoir cette seconde chance-là, sur cette saison-là en tout cas. Je pense qu'un retour aurait été tout à fait convenable dans une saison peut-être un petit peu moins forte. Mais j'ai quand même plutôt tendance à me demander pourquoi il est là qu'autre chose. Mais pareil, hein, on ne peut qu'être surpris. Mais honnêtement, c'est un peu curieux quand même.
Ah voilà, c'est Namadia, c'est un collier, une punchline pour la postérité. Ça ne l'a pas empêché de jarter le conseil suivant, hein. faut s'en souvenir aussi. Comme on l'a dit depuis le début du podcast, ça va être une saison fan service. Donc comme à peu près tous les deux jours, on revient sur Twitter une vidéo de son collier sorti sur Ravière, bah voilà, on s'en souvient comme étant un mec qui s'est joué un collier alors que pas du tout. C'est juste il a sauvé son cul pour trois jours et puis basta quoi. Et voilà, il a écrit Ravière en mettant RAT RAT et Vière. Bah, super, merci d'être venu. À côté de ça, t'as fait quoi dans ton Koh Lanta? Pour moi, il a rien, strictement rien à faire sur Koh Lanta, la légende. Voilà. Maintenant, comme l'a dit Freeze, j'espère qu'il va nous surprendre sur tous les aspects du jeu que l'on connaît à Koh Lanta. Mais voilà, autant à Hugo, on ne s'en souvient pas, mais il a gagné, donc à la limite, pourquoi pas. Ravière, Namadia, voilà. Ravière aurait eu plus sa place, par exemple.
Ah oui, très clairement.
Très clairement, parce qu'il a marqué l'histoire du jeu par rapport à sa stratégie, que ce soit dans sa première et dans sa deuxième édition, etc. Mais Namadia, voilà, t'es gentil, mon loulou, mais Koh Lanta la légende, voilà, toi, c'est Christophe Rocancourt la légende, quoi.
Ah, Namadia, du coup, je vous rejoins sur une chose, c'est que voilà, techniquement, sur une saison, la légende, c'est sûrement parmi les hommes, au moins. Je veux dire, on s'en souvient, oui, pour une séquence où il a sorti son collier avec son petit air, avec la faute d'orthographe au nom de Ravière, oui, qui était un petit peu le vilain à ce moment-là, donc c'était un petit peu rigolo. Donc, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Là, comme le dit très bien Arnaud, c'est une question de fan service. C'est juste ça. Donc vraiment, ça me gêne un petit peu qu'on le classifie comme légende juste pour une séquence. Et ça, c'est quelque chose qui m'ennuie un petit peu. Après, en tant que joueur, j'ai pas l'impression qu'il y ait spécialement de grosses faiblesses, vu que apparemment c'était plutôt un bon sportif. J'ai pas l'impression qu'il ait un social particulièrement désastreux. Bon, son collier, il a su le jouer au bon moment. Bon, je sais que c'est une évidence, mais comparé à un certain candidat sur lequel on va arrêter de faire des vannes, c'est déjà ça. Mais voilà, c'est que Namadia, je ne lui vois pas vraiment de défaut, donc il peut tout à fait nous surprendre.
Il a autant de défauts que de qualités, hein, je trouve. C'est-à-dire, enfin, tu dis qu'il n'a pas vraiment de défauts, mais il ne les a pas montrés, en tout cas sur sa saison. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Mais disons que ce que je veux dire, c'est que comme on ne voit pas de faille évidente dans son jeu.
Non, mais il n'y a pas de qualité non plus, c'est ça que je veux dire.
C'est ça. Ben justement, il peut nous surprendre, en bien comme en mal.
Ouais, c'est ça.
Bon, sauf que en mal pour nous,
ouais, ça marcherait. On sera moins surpris, oui.
Mais disons, voilà, c'est pas... c'est quelqu'un qui peut vraiment nous surprendre sans que... comment dire ? Sans que ça nous étonne vraiment. C'est-à-dire, on sait qu'il a un petit potentiel, mais on ne sait pas si jamais il peut aller au-delà de ce petit potentiel. Je ne sais pas si mon expression est très claire, mais voilà, on sait que sportivement, il tient la route. On sait que on sait qu'il a eu un bon timing, mais voilà, c'est un petit peu tout. Après, voilà. Sur Namadia, par contre, il y a une petite remarque à faire. C'est que, comme l'a souligné Damien, ça fait trois candidats de Koh Lanta Malaisie, la saison 12, qui était la dernière saison qu'on va appeler old school, c'est-à-dire la dernière saison avant... la coupure forcée suite à la mort de Gérald Babin. Donc, je me demande si derrière ça, il n'y a pas un petit parti pris de la prod justement en faveur du fanservice. C'est-à-dire, on sait que les saisons à l'ancienne ont quand même une réputation qui est souvent bien surcotée, souvent bien, comment dire, souvent pas du tout en rapport avec ce qui s'est passé. Mais disons qu'il y a pas mal de monde qui associe le mérite aux saisons à l'ancienne et qui associe le tournant stratégique au récent. Et sur une saison fan service, voir trois représentants d'une saison old school, mais la plus récente pour pas que les candidats soient trop vieux, voilà, ça me fait penser qu'il y a peut-être un petit parti pris éditorial là-dedans et que c'est pas seulement les réseaux des candidats. Mais après, voilà, je peux me tromper. Mais c'est quand même une observation que j'ai à faire en voyant trois candidats de Malaisie qui étaient pourtant une saison
merdique,
qu'on va dire pas franchement mémorable.
J'ai dit merdique.
Alors, on enchaîne avec l'avant-dernière femme, du coup. Et c'était mon crush de quand j'étais au lycée, parce que c'est passé quand j'avais 17 ans. J'avais envie de le lire. Voilà, je la trouvais belle, je la trouvais souriante, charismatique. C'est Kumba. Voilà, c'est Kumba donc, qui a participé déjà trois fois, donc qui avait été éliminé, on va dire, c'était un abandon déguisé lors de Koh-Lanta Pacifique en 2005. Ensuite, qui était à l'orientation lors de la pire saison de Koh-Lanta, qui est avec les sportifs, je me rappelle plus le nom. Puis, encore
le choc des héros.
Le choc des héros, merci. Et qui termine aussi à l'orientation lors de la revanche des héros en 2012. Alors, pareil, c'est une joueuse assez accrocheuse, assez bonne sportivement. Qu'est-ce que vous en retenez ? Est-ce que vous êtes content de son retour ?
Non.
Bof.
Bah, c'est tout. Franchement, c'est tout ce que j'ai à dire. Je m'en fous. Voilà. Elle n'est pas antipathique, hein, mais pourquoi ? Voilà. Enfin, clairement, pourquoi elle est là ? Tu vas pas me dire que dans toutes les filles qui ont participé Koh-Lanta, il n'y a pas un profil plus intéressant que Kumba, qu'on a déjà vu trois fois, qui n'a rien fait sur trois saisons. Bon, alors certes, elle est un peu mémorable parce que elle est athlétique, elle est lancée, elle a une grosse personnalité, mais je pense qu'il y avait mieux à trouver quand même. Vraiment, vraiment. Et bon, comme dirait Arnaud, à voir ce que ça va donner, mais je suis absolument pas ni intéressé ni hypé par sa présence, et je pense qu'il y avait vraiment mieux à trouver pour une saison de légende. Pour moi, Kumba, elle n'est pas légendaire du tout, elle est au mieux marquante dans l'histoire de Koh-Lanta, et encore, je suis gentil, je pense, en disant ça, mais bon, voilà, j'en pense vraiment pas beaucoup de bien, même si j'en pense pas beaucoup de mal non plus, mais elle m'est un peu indifférent, mais je trouve que c'est quand même une place prise pour pas grand chose.
Bah, le seul intérêt de voir Kumba, c'est de savoir si elle a enfin réglé ses problèmes d'orientation. Au-delà de la vanne, oui, c'est pareil, on l'a vu trois fois, elle a une cote de sympathie immense, qui l'a fait aller à l'orientation à chaque fois, même si bon, en 2005 elle y va pas parce qu'elle en avait ras le fion. Mais voilà, ouais, c'est pareil, je suis pas hyper hypé de la revoir. Voilà. Non, ouais, c'est pareil. Aucun intérêt à la revoir plus que ça. Si ce n'est, ouais, peut-être qu'elle s'améliore en sport parce que maintenant elle fait du triathlon, ouais, c'est bien. C'est cool.
Oui, mais elle peut faire du triathlon sans refaire Koh-Lanta.
Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Non, mais ouais, c'est... Non, mais complètement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Hein, fait que... Ouais, c'est cool, tu fais du triathlon maintenant, t'es un peu plus sportive. Maintenant, qu'est-ce que ça va apporter au jeu ? Rien. Donc, fais ton aventure, surprends-nous, et on verra, peut-être qu'on verra notre jugement.
Ben, je vais être honnête avec tout le monde. Quand j'ai vu la liste des candidats du All-Star, la première question que j'ai eue, c'est qui Kumba ? Je m'en rappelais plus. Alors, avec le recul, oui, maintenant, je me souviens de ces deux orientations. Bon, une dans une saison où presque tout le monde a fini à l'orientation. Enfin, presque tout le monde qui n'est pas un sportif professionnel.
C'est vrai.
Et apparemment, la dernière, c'est plus ou moins lié à un pack. Donc, oui, voilà. Oui. Je pense que... voilà, le côté légendaire... Je vais faire une petite blague sur Pokémon, ça va changer un petit peu, mais elle est autant légendaire qu'un Fionn. Donc,
que qui ?
Quoi ?
Fionn.
Ok.
D'accord.
D'accord.
Ok, vu.
Voilà.
Bah donc, vu que Kuma a l'air de vous emballer, du coup, on va passer au dernier homme et on va passer à Sam.
Voilà qui est légendaire.
Voilà. Pas dans le bon sens, oui. Alors Sam, du coup, lors de l'idéon, personnellement, je ne l'avais pas apprécié parce que oublier que s'il n'y avait pas deux abandons déguisés, il était éliminé quasiment dès les premiers chez les jaunes. Donc, personnage bon survie, c'est un bon scout, hein, voilà, je dis pas, mais socialement, stratégiquement, c'était naze. Et je sais pas pourquoi on en a fait une espèce de légende. Donc, oui, donc ça, enfin, c'est vu sa perception grand public, c'est logique qu'il soit là. Mais en tant que joueur, bah, pff, ouais, comme je disais, c'est un bon scout, quoi. Vous, pareil, est-ce que vous voudriez plutôt nuancer ça ou vous êtes plutôt d'accord avec ça?
Ouais, je suis d'accord et à la fois, je suis quand même. Il y a une part un peu sadique en moi qui est content de le revoir. Non pas parce que je l'apprécie, mais parce que je trouve qu'il a quand même sa place, mine de rien. Parce qu'il a été tellement petit con sur son édition que c'est pas inintéressant de le revoir quelques années plus tard, voir s'il a un peu mûri, ce que je lui souhaite, hein, honnêtement. Donc je suis, c'est un de ceux qui m'intéresse le plus en termes d'évolution, en tout cas. C'est loin d'être un de mes candidats préférés, très clairement, parce que, comme tu disais, il était pas loin d'être détestable parfois. Mais c'est quand même un énorme potentiel, hein. Il a 20 ans. C'est le plus jeune de la saison, de loin. Donc, grosse curiosité. Après, il y a quand même quelques craintes, effectivement, notamment son rapport avec Claude, dont il est complètement fan, on s'en souvient très bien. Théo, pareil, et sûrement d'autres, puisque c'est un gros fan de Koh-Lanta. J'espère juste pour lui qu'il ne va pas se faire bouffer par le côté légende de l'édition et qu'il va pouvoir un peu s'imposer en tant que Sam, et se créer un vrai personnage, pas juste un vieux fan un peu fade. Mais moi, j'y crois. Je crois en sa rédemption, je crois en son évolution, je crois en sa capacité à exister par lui-même. Et je suis assez content de le revoir, alors que je ne pensais pas dire ça lors de sa saison. Mais c'est un profil qui me plaît, parce que justement, c'est un peu différent des sportifs lambda, parce qu'il a un passif et une histoire un peu négative dans le jeu, et je pense qu'il peut transformer ça en quelque chose de plus positif. Donc j'espère vraiment ne pas me tromper. Peut-être que ça sera le même petit con qu'il y a quelques ans, mais et tant pis, il nous régalera quand même. Mais moi je suis très content de le revoir, même si je sais qu'il va m'agacer certainement, mais je suis quand même très content de le revoir. Voilà.
Et c'est drôle parce que tu vois, quelques ans, en fait, l'île des héros, ça a été fait que l'an dernier.
Ouais,
c'est
vrai.
Ça fait 2-3 ans, mais. Ah, c'est vrai que ça fait très long.
Avec la pandémie, il faut multiplier les années par trois.
Le fait qu'il y ait maintenant 4 saisons par an proposées par Koh-Lanta, enfin par LP, j'allais dire ADF, n'importe quoi. techniquement, si, il y a ADF aussi, du coup, parce que chaque saison de Koh-Lanta correspond à une saison d'ADF. Enfin bref. Non, mais oui, bah, à voir s'il a évolué dans son jeu. J'ai hâte de voir si à un moment, parce que bon, on se souvient qu'il était fan, comme l'a dit Freeze, de Claude de Théoura, il me semble qu'il était fan aussi de Freddy, de. Et puis voilà. Oui. Donc, ça va être intéressant de le voir confronté à des choix où il n'aura pas. Où il à un moment, il sera peut-être confronté au choix de sortir une de ses idoles. Donc, à voir comment ça va le tournebouler dans son esprit. Voilà, c'est le seul intérêt qu'il peut avoir à revoir Sam. Évidemment, il fait partie des légendes récentes par rapport à l'évolution qu'il a eue dans son jeu, même s'il n'y avait pas eu les héros, il aurait sorti rapidement. C'était un Victor 2.0, je me souviens de Victor qui était un petit peu dans le même moule. Mais ça fait plaisir à la petite ménagère de 50 ans, même si j'aime pas ce terme, qui était fan de Sam, qui en faisait son gendre parfait parce qu'il savait se démerder tout seul dans la nature, le petit genou et tout. Enfin voilà, ça émoustille, le grand public. Maintenant, à voir s'il a évolué et s'il a pu mettre un petit peu de social dans son jeu, c'est ce qui lui a manqué un petit peu. Et si aussi il a pu mettre un petit peu de féminisme dans son jeu, parce que je me souviens de. Oula. Quand même, c'était un bon gros macho de première, donc j'espère pour lui qu'il a quand même évolué là-dedans, parce que niveau féminisme, il va être confronté à des candidates redoutables là-dessus. Donc
à Clémentine.
À Clémentine, même Alexandra. Hein, Alexandra, je me souviens. Oui, voilà, oui, c'est, mais... Donc voilà, le retour risque de lui faire mal s'il n'a pas mis d'eau dans son vin là-dessus.
Alors, Sam, Alors d'abord une petite chose, Arnaud, on dit plus ménagère de moins de 50 ans, on dit femme responsable des achats de moins de 50 ans. C'est tout de suite tout casse, tu vois.
Je sais, mais je suis un vieux de la vieille.
On dit. Ceci étant dit, pour Sam, on va séparer
l'homme de l'artiste.
Le est-ce que c'est une légende du est-ce que c'est intéressant de le revoir ? Parce que est-ce que c'est une légende ? Ben, à part son score au tir à l'arc, je vois pas trop ce qu'il y a de légendaire. Hein. Il a quand même été éliminé relativement tôt. Il a eu un personnage qui est pas si intéressant que ça, même s'il a un petit côté attachant. Vraiment le côté légendaire je le vois pas. Ouais, on sait que le côté légendaire n'est pas défini par des critères plus ou moins rationnels, c'est lié un petit peu à l'inconscient collectif. On l'a bien vu avec Namadia et je pense d'ailleurs que Sam est quand même déjà un meilleur choix que Namadia, donc voilà, on va pas trop revenir là-dessus, mais je voulais quand même le souligner vu qu'on en avait pas du tout parlé avant. Par contre, oui, il est intéressant à revoir parce que ben déjà, je vais revenir sur les 4S. C'est que c'est quelqu'un qui est très fort en survie, mais c'est une saison où on s'en fout. C'est quelqu'un qui est très fort en sport, et là, c'est déjà un petit peu intéressant parce que comme il y a beaucoup de bons profils, on va peut-être voir un petit peu qu'est-ce qu'il vaut vraiment. On va peut-être le voir un petit peu gêner des gens comme Claude, des gens comme Maxime. On peut le voir vraiment se mêler à la lutte, et même si les épreuves ne sont pas la chose la plus exaltante dans Koh-Lanta, parce que bah, malgré toutes les tentatives de la production pour foutre un petit peu d'enjeu avec les votes de pénalité, avec les éliminations surprises, avec toute cette panoplie de réjouissances, le format de Koh-Lanta fait que l'épreuve ne sera jamais le point central, sauf dans un scénario très particulier. Mais voilà, c'est tout de même un petit intérêt que ça apporte. Mais le vrai intérêt, c'est surtout que c'est une saison où la stratégie et le social vont être encore plus primordiales que d'habitude. Et c'est deux aspects où Sam a été faible la dernière fois. Et ces deux aspects, on a bien vu lors de ses interviews après sa sortie de l'île des héros, qu'il a compris qu'il n'avait pas été à la hauteur sur ces deux aspects-là. Surtout sur la stratégie. Et dans ses dires, il parlait surtout de la stratégie. Donc de ce fait, je pense que ça peut être très intéressant de voir si jamais il peut réussir sa rédemption dans ce domaine stratégie sociale. Et là, vraiment, j'ai vraiment envie de le voir parce que il peut foutre le bordel dans les épreuves. Il peut donc apporter cette forme d'équilibre. Et on peut voir si jamais il est vraiment fort dans les deux autres aspects du jeu quand il ne les néglige pas. Et donc, on peut voir un tout autre visage de Sam. Et ça peut être réjouissant parce que, mine de rien, même si bon, le côté un petit peu misogyne qu'il avait à l'époque était très agaçant, il avait quand même un côté attachant. Donc, il y avait un côté fan avec les yeux tout écarquillés. Vraiment, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va donner Sam. Donc, même si je sais qu'il agace un petit peu une partie de la communauté ADF, plus par sa fanbase que par ce qu'il voulait lui-même, c'est la même discussion que Claude. Mais je pense vraiment que c'est un candidat qui a beaucoup d'intérêt à suivre. Et ça sera peut-être un de ceux que je suivrai avec le plus d'attention cette année, si jamais il ne nous refroidit pas dès le premier épisode.
Et enfin, la dernière candidate, donc on va arriver un petit peu à la fin de ce cast-assessment, c'est Karima. Donc Karima de Koh-Lanta Thaïlande, Karima la militaire donc de carrière, qui avait terminé... Voilà, on a Jade de notre communauté qui la déteste et du coup qui va se faire un plaisir de casser du sucre dessus. Alors moi, j'ai pas vu Koh-Lanta Thaïlande, mais quand je vois un peu les réseaux, j'ai l'image d'une candidate qui super calcule son image, qui a l'ambition d'être une espèce de rôle modèle pour les jeunes femmes maghrébines parce qu'elle est militaire et qu'elle dit qu'il faut transmettre des valeurs ou je ne sais quelle foutaise. Voilà, moi je en tant que joueur, je sais pas, mais en tant que personne, je sais pas. Moi, j'ai tendance à me méfier beaucoup des gens qui calculent beaucoup trop leur image, et j'ai bien peur que ça donne une candidate assez fade et qui se redresse face caméra pour citer Gandhi, vous voyez. Donc, vous, pareil, vous, si vous avez vu la saison, qu'est-ce que vous pensez de Karima? Qu'est-ce que vous en attendez?
Allez, bonne soirée.
Moi, j'en attends strictement rien. J'en garde un très mauvais souvenir sur sa saison où elle était comme tu dis, très calculatrice de son image et de tout. Bon, je comprends pas trop son cast, si ce n'est qu'effectivement, c'est un nom marquant pour on ne sait quelle raison, vraiment. Mais bon, c'est... Non, enfin, j'ai fini.
Le seul truc qui a été intéressant sur elle dans son édition, c'est qu'elle avait caché le fait qu'elle était militaire aux autres, ce qui n'était pas en soi mauvais, mais voilà, c'est le seul truc de bien qu'elle a fait. Mais sinon, ouais, grosse flemme de la revoir.
C'est pour moi la candidate la plus surcotée, non seulement de la saison, mais probablement de l'histoire du jeu. Je comprends pas pourquoi elle a une telle cote d'admiration, d'amour presque du public, alors qu'elle a strictement rien fait, ni dans le jeu, ni en termes de personnalité. Je trouve qu'elle dégage rien de remarquable. Donc, bon, on va voir, hein, comme on dit depuis tout à l'heure, on va voir ce que ça donne, mais voilà.
Ouais.
Ben, je vais pas aller beaucoup plus loin que vous, c'est que, voilà, on sait qu'elle a ce côté très hypocrite. Bon, après, peut-être que ça va changer. Hein. On va pas insulter l'avenir, mais de cette première saison, on retient juste voilà, ce côté très hypocrite, très calculatrice dans l'image qu'elle veut dégager. Après, voilà, peut-être que c'est pour une bonne cause, mais disons que dans Colanta, on a quand même plus la spontanéité. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal. Enfin, je comprends pourquoi elle a été castée, vu que bon, on sait qu'il y a beaucoup de références à elle à chaque fois, que on sait que voilà, il y a une partie des fans du public général qui sont à fond sur elle. Et puis voilà, ça peut se comprendre vu que le côté rôle modèle pour une certaine partie de la population, je comprends que ça puisse attirer des gens. Ouais, mais après,
rôle modèle qui a envie d'être comme Karima.
Oui, voilà. C'est d'être quelqu'un d'être aussi de voilà de. Ah,
franchement.
D'aussi rigide, d'aussi voilà. C'est-à-dire, c'est que t'as envie voilà. D'avoir un petit peu d'aspérité pour t'identifier à quelqu'un et pas à quelqu'un qui fait tout bien comme il faut. Ça, c'est un bon élève et c'est chiant.
Oui, pour nous c'est chiant, mais t'as des gens pour qui oui, mais elle au moins elle a des valeurs. Je pense qu'au bout d'un moment on les connaisse là. Donc et voilà, c'est vraiment voilà, j'ai pas de je vois Emma qu'on saluait, qu'on risque de beaucoup voir cette saison vu qu'elle nous a confirmé être souvent disponible mardi soir, donc on attend avec hâte de la revoir vu qu'elle a été excellente pour sa première saison. Mais je vois très, très intéressante sa remarque, c'est que Karima, selon elle, elle a une très forte cote de sympathie parce que c'est une femme qui joue totalement avec les critères masculins. Et que ces critères masculins, que bah voilà, le côté militaire, le mérite, l'adhésion à l'idéologie du mérite, le côté très sportive, et du coup, ça fait d'elle une des seules femmes qui peut plaire au public qui recherche ces critères masculins. Oui. Et disons que en effet, je pense que Emma vise tout à fait juste, c'est que
c'est une image féminin,
très
quoi.
Masculine dans Koh-Lanta, et disons que c'est une des femmes qui est la plus légitime à remplir ce rôle stéréotypé masculin. C'est-à-dire, attention, ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle n'a pas le droit de le faire, mais disons que elle le fait, comment dire, elle le fait de manière tellement délibérée que ça ne paraît pas du tout naturel et que c'est ça qui est un petit peu gênant.
Et un peu en dévalorisant les autres types de jeux et les autres modes de vie presque, hein, dans sa saison. Elle était quand même très hautaine et très méprisante envers pas mal de monde. Donc jouer comme ça, pourquoi pas, mais pas au détriment d'autres joueurs ou d'autres joueuses, quoi.
C'est ça, mais après, je pense qu'on peut le voir tous les jours en allant un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est que... le côté hautain et méprisant, ça n'est pas du tout un deal breaker pour beaucoup de personnes, malheureusement. Et je trouve ça très, très dommage. Et du coup, voilà, c'est vraiment... Après, sur ses chances dans le jeu, ben...
Nul.
Oui, meilleur jeu.
On appelle ça social. Hein. C'est que sportivement, oui, elle tiendra la route. Mais niveau stratégie et social, et je pense que ça va être très important cette saison. Bon, donc, à moins qu'elle ait fait un tournant à 180 degrés, je ne vois pas du tout comment
elle
ça peut passer.
Elle a juste suffisamment de copains dans le cast pour passer quelques tours et peut-être la merge, mais effectivement, on voit mal comment elle pourrait aller beaucoup plus loin, quoi.
Bah, la réunification, ça peut aller, je veux dire.
Oui, c'est ça.
Vu que le côté très sportif, ça peut aller, mais passer la réunification, je vois pas ça aller très loin. Après, on peut se tromper. Hein.
Tout à fait.
Mais voilà.
Ouais. Bah, écoutez, cet épisode est... Oui, excuse-moi, tu voulais dire un truc,
Carlo. De toute façon, les 20, on les voit passer la mer, et après, on verra. Donc, au bout d'un moment, il y en aura bien.
Ah non, non, il y en a plein que je vois pas du tout passer à la mer.
N'est-ce pas, Cindy?
Bah, écoutez, du coup, cet épisode-là est terminé. Donc, bah, merci à tous. C'était assez sympa de faire comme ça une petite revue un peu des candidats, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Je pense que les gens qui nous écoutent auront un peu l'idée de qui on apprécie, de qui, au contraire, on s'en fout, hein, littéralement. Donc, bah, merci Freeze, merci Gino, merci Arnaud. Donc, on va vous retrouver aussi cette saison pour le débriefer cette saison Koh-Lanta la légende pour la 5e saison d'Autour du Feu.
Tout, ah, à fait. Oui, tout à fait. On est bouillant, on attend que ouais. ça.
Et on a hâte de reprendre cet épisode à la fin de la saison pour voir si on avait raison ou pas.
On a dit que de la merde.
Bon, de toute façon, on a tous dit à voir. Donc,
Ouais, ça c'est toi, on s'est un peu plus mouillé.
Et d'ailleurs, donc pour cette saison, vu que les épisodes sont le mardi soir, on enregistrera les épisodes dans la foulée des épisodes et ils sortiront le lendemain. Donc ce sera plus, donc ce sera le mercredi, mais c'est pas un épisode à J+5. Ce sera un épisode vraiment au lendemain de la diffusion de l'épisode de Koh-Lanta. Donc ça va être j'ai une bonne organisation pour nous, mais histoire d'être un petit peu comme ça, un peu encore dans le jus et que nos analyses puissent vous intéresser. Donc c'était Damien, puis je vous dis bah, à la semaine prochaine pour Koh-Lanta la légende, le début de cette saison qui nous hype et dont on va beaucoup aimer, je pense, suivre les aventures. Salut à tous.
Et allez Phil.
Et voilà. Allez tout le monde.
Super.